Bonsoir et bienvenue du Grain à Moudre, le club des idées comme chaque vendredi. Ce soir, Trump fait-il craquer les démocraties européennes? C'est un fait, une série de faits même, depuis l'élection de Donald Trump, depuis 2 ans donc, pas une élection nationale dans les grands pays européens sans une progression des partis populistes, législatives en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suède, législatives et présidentielles en France, liste non exhaustive. Cette dynamique ne date certes pas de novembre 2016, mais elle semble s'être renforcée avec l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche, une arrivée due en partie à la stratégie mise en place par un homme, Steve Bannon, directeur de campagne de Trump, puis conseiller stratégique du président, puis viré, tombé en disgrâce, enfin en apparence, car depuis quelques mois, non seulement il continue d'agir pour Donald Trump aux États-Unis, il est en campagne à 4 jours des élections de mi-mandat, mais encore, il œuvre en Europe. Bannon y est souvent venu ces derniers mois, en Italie, saluer les victoires de Matteo Salvini et Luigi Di Maio, en France, invité par Marine Le Pen, en Hongrie, et même en Belgique, à Bruxelles, où il a annoncé en juillet dernier le lancement du Mouvement, un club dont le but est de fédérer les populismes européens en vue des élections européennes de mai prochain, un club qui pourrait préfigurer une sorte de supergroupe dans le prochain Parlement européen et perturber, voire paralyser l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. D'où cette question, Trump fait-il craquer les démocraties européennes?
Allez Matteo!
Je suis comme des millions d'Italiens et comme des dizaines, des centaines de millions d'Européens qui contestent cette gestion de l'Union européenne, ce manque de démocratie, de débat, un excès de pouvoir de la finance, de la bureaucratie. Toute cette nébuleuse qui a généré plus de pauvreté, de tristesse, plus de conflits sociaux, et nous espérons changer cela.
Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de recevoir Giuseppe Conte. C'est un homme qui réalise un travail fantastique. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous faites en termes d'immigration, l'immigration illégale et même l'immigration légale.
Marine Le Pen a raison, il n'y a pas de droite ou de gauche. Le combat est contre les mondialistes, martèle l'ancien conseiller de Donald Trump. Marine Le Pen boit du petit lait au premier rang avant de s'offrir une conférence de presse.
Je suis heureuse que Steve Bannon ait pu venir pour démontrer que nous ne sommes pas seuls. Ce clivage entre les mondialistes et les nationaux va entraîner la gigantesque recomposition de la vie politique mondiale.
Vous n'êtes pas seul. Le Brexit, Trump, et ceux pour qui vous avez voté le 4 mars dernier, c'est le même rejet de l'état des choses.
Steve Bannon fourbit ses armes pour conquérir l'Europe.
C'est pourquoi l'Italie aujourd'hui est le centre de l'univers politique.
Les voix de Steve Bannon, Donald Trump, Marine Le Pen, Matteo Salvini, montage d'Annabelle Brouard pour donner déjà plusieurs éléments de réflexion et de débat. Débat organisé dans le cadre de la journée spéciale organisée sur France Culture. Débat en direct et en public comme chaque vendredi du Bel Air à la Maison de la Radio avec deux habitués du Club des Idées. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, enseignante à Sciences Po. Aude Lancelin qui est dans les bouchons et qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle va arriver dans quelques minutes, la directrice du Média. Et puis l'invité du club ce soir. Yves Bertoncini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Mouvement Européen France. Le club du Grain à Moudre donc commence. Pour commencer, et avant de parler des liens entre les populismes américains et européens et d'éventuelles influences sur l'avenir de l'Union européenne, quelques mots d'abord sur la manière dont Donald Trump envisage les relations entre les États-Unis et l'Europe. Yves Bertoncini, comment considère-t-il le président américain le vieux continent?
Pour autant qu'on puisse suivre ces déclarations successives, il se dégage quand même une doctrine avec du traditionnel en plus brutal. Les Européens doivent prendre davantage en main le financement de leur sécurité. Alors ses prédécesseurs le disaient déjà, l'OTAN ne doit pas être un fardeau. Lui le dit de manière beaucoup plus brutale et parfois même vulgaire. Mais il y a au-delà de ça quelque chose de tout à fait nouveau. Les États-Unis d'Amérique ont été au fondement de la construction européenne. Il y a des pères fondateurs dont on parle en Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, De Gasperi, mais il y en a deux autres. C'est d'un côté Staline, dont on avait peur, et de l'autre Truman. Truman nous poussait à nous unir, pour des raisons géopolitiques et même économiques. Bon. Aujourd'hui, nous avons non plus Staline et Truman, nous avons Poutine et Trump. Poutine continue à nous inquiéter, Mais ça, ça, normalement, ça peut nous pousser à nous unir. Mais la grande révolution, c'est que Trump ne nous pousse plus vraiment à nous unir, dit même que l'Union européenne a été faite au détriment des intérêts des Américains et attaque même plusieurs pays, notamment l'Allemagne, sur des sujets commerciaux. Et donc, là, c'est une révolution géopolitique pour les Européens qui a amené, par exemple, la chancelière allemande, Angela Merkel, à dire que voilà, il fallait qu'on prenne davantage notre destin en main, notamment du point de vue de notre sécurité collective.
Une source d'inquiétude donc en Europe, Anastasia Colosimo, un populisme aussi aux États-Unis qui inquiète certains pays européens, des populismes en Europe qui nourrissent encore plus ces inquiétudes, des populismes d'ailleurs de droite comme de gauche. Est-ce que ces populismes européens d'un côté, américains de l'autre, sont comparables ?
Alors, avant toute chose, et vraiment de manière assez peu orthodoxe, je suis très gênée par le mot de populisme, et surtout je suis très gênée par l'espèce de consensus qu'il peut y avoir, d'une part sur le fait que le populisme est forcément nocif, donc sur le fait que le populisme est péjoratif, est un terme péjoratif, et d'autre part sur le fait qu'on mette un peu plein de régimes différents, plein de partis différents dans le même sac. Sur le premier point, sur la question de vous voyez, c'est d'ailleurs assez intéressant comment vous avez appelé cette émission. Trump fait-il craquer les démocraties européennes ? Il est évident que ce qu'on appelle grossièrement aujourd'hui le populisme et la montée du populisme en Europe ne vient certainement pas de Donald Trump. Ça ne vient même pas de personnes qui auraient seules décidé qu'il était temps de changer de régime. Ça vient d'un certain état de fait quand même dans le monde occidental, d'une certaine mondialisation qui a été mal vécue, et ce à la fois avec des aspects qu'on sait économiques, qui sont extrêmement forts, de toute une partie du peuple, parce que je pense que le peuple existe, qui se sent déclassé et qui se sent justement ne pas appartenir à ce monde unifié et formidable qu'est l'Occident, l'Europe, etc. Et d'autre part, un aspect plus politique, ou on pourrait dire culturel. Et là, on touche à des questions qui sont des questions complexes et plutôt irrésolues. Et en premier lieu, évidemment, l'immigration, puisque c'est, on pourrait dire, quasiment le seul dénominateur commun entre à tous les populismes, au moins de droite.
Yves Bertoncini.
Je crois qu'il y a une tectonique des plaques qui concerne l'Occident dans son ensemble. La mondialisation économique, qui fait des gagnants et des perdants. La mondialisation financière et même la dérégulation financière qui a donné une crise extrêmement violente, la pire depuis 1929. L'affaissement démographique de l'Occident, nous rétrécissons, les Européens, nous ne sommes plus que 6% de la population
mondiale. C'est un argument souvent utilisé
par
les populistes en Europe, par Matteo Salvini notamment.
Mais, qui est lié à nous-mêmes, c'est nous qui ne faisons plus d'enfants, il y a une transition démographique, etc. Simplement, elle ne va pas du même plan ailleurs, au sud des États-Unis, au sud de l'Europe, ailleurs. Et donc, une angoisse identitaire qui en découle, au-delà même de crises ponctuelles, comme celle des réfugiés, qui est maintenant totalement jugulée et derrière nous. Donc, il y a ce fond de carte, cette technique des plaques, qui va affecter l'ensemble des pays occidentaux, mais avec plus ou moins d'intensité. Je reprends, la mondialisation économique va d'autant plus frapper dans des pays où la protection sociale n'est pas très sophistiquée. Et je suis désolé, c'est plus facile de perdre son emploi en Suède qu'aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Et donc ça affecte davantage les États-Unis d'Amérique. La mondialisation et la dérégulation financière, pareillement. Ce n'est pas les Européens qui ont créé les subprimes, c'est les Américains. D'ailleurs, Donald Trump est en train de tout redéréguler. Et donc, ça a créé des dégâts d'autant plus forts. Ça explique aussi la montée des mécontentements aux États-Unis. Ça a aussi expliqué le Brexit, la City de Londres et Wall Street. Du point de vue démographique, il y a une pression qui s'exerce davantage sur des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni. D'ailleurs, on le voit, ceux qui campent à Calais, c'est parce qu'ils veulent aller au Royaume-Uni. Parce que c'est la langue anglaise, c'est attractif, il y a de la flexibilité des diasporas. Et donc, d'abord des pays qui sont davantage concernés par cette tectonique des plaques que d'autres. Et puis pour que le tremblement de terre arrive, il faut qu'il y ait des failles sismiques. Il y avait une faille aux États-Unis, je crois que le système électoral américain tel qu'il est conçu permet à quelqu'un de gagner même s'il n'a pas la majorité des voix.
Ce qui est arrivé à Donald Trump en 2016.
Mais en tout cas, c'est un élément du système politique. Je crois que quand on parle de l'Italie et de l'Autriche, c'est un système législatif très proportionnel, parlementaire proportionnel, qui peut permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir, et c'est le cas, mais rappelons-nous, hein, Matteo Salvini,
par un jeu d'alliance,
17%, hein. 17%. Ouais. On a l'impression, certains journaux français le disent, qu'il est président du Conseil en Italie. Non, pas du tout.
Non, non.
C'est quelqu'un qui était en alliance avec Berlusconi.
C'est ce qu'on le voit beaucoup, en fait.
C'est Giuseppe Conte, lui, est vice-premier ministre.
Absolument. Et donc, des failles qui peuvent tenir au système politique. Et c'est vrai qu'en France, c'est par exemple beaucoup plus difficile, et dans d'autres pays, hein, parce que ces poussées n'ont pas eu lieu de la même intensité dans d'autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en France, l'extrême droite devrait faire 51% au deuxième tour d'une présidentielle.
Alors on va voir hein, si cette vague populiste ou si ces différents partis que vous avez identifiés, dont vous avez donné certains traits, Bertoncini, peuvent éventuellement encore progresser en France et en Europe. Sur l'analyse d'Yves Bertoncini, Anastasia Colosimo, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui. Ensuite, je pense qu'il faut pas réduire non plus. Vous savez, il y a une tendance aussi, d'ailleurs c'est ce qu'on entend beaucoup, le retour des années 30, il y a une tendance aussi à vouloir dire que ça n'est que
l'effet... Ce que disait le président Macron hier dans une interview à
Bien sûr, mais en reprenant en fait une sorte de leitmotiv un peu...
Ce qui a été dit à plusieurs reprises ces derniers mois, oui.
Exactement, et avec une lecture seulement économique, vous savez, qui dit mais c'est parce que on sort d'une très grande crise économique, et d'ailleurs de tout temps, depuis toujours, quand il y a une crise économique, il y a une montée des extrêmes. Je pense que c'est une lecture qui est assez faible parce qu'elle ne prend pas en compte l'entièreté du phénomène, c'est-à-dire évidemment qu'il y a une question économique, il y a évidemment une question démographique, il y a éminemment quand même une question culturelle, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le repli, etc., c'est aussi une inquiétude face à la mondialisation et qui effectivement n'est pas seulement liée à l'immigration. C'est aussi l'inquiétude face au village-monde, face, bah, pour le coup, on peut le dire, à la prolifération de l'anglais partout et de personnes qui ne se sentent pas appartenir à ce monde-là qui est quand même, on peut le dire, un monde d'élite. J'ajouterais par ailleurs qu'il y a une internationale. Il y a une internationale qui, pour moi, est plutôt une internationale de la colère. Et cette internationale de la colère est une internationale rouge-brune. Ça, c'est vrai.
Vous parliez d'insécurité tout à l'heure, Yves Bertoncini. On retrouve ça un peu dans ce que vous dites aussi, Anastasia Colosimo. Insécurité culturelle. Je voudrais juste vous rapporter des propos tenus par Dominique Régnier ce matin sur France Inter, le directeur de la Fondapol. Les peuples ont le sentiment que leur destin leur échappe, qu'ils n'ont plus de prise sur le monde. Les peuples cherchent à retrouver des instruments qui leur permettent de contrôler leur avenir. Ils parlent en fait d'une insécurité politique. Et est-ce que c'est une analyse que vous partagez?
Absolument. Alors, l'élément était présent dans la campagne du Brexit hein, sur le mode take back control. Voilà. Take back control, je pense qu'il y a une volonté double. D'abord, quand on regarde le monde, nous, Européens, nous, Occidentaux, il va falloir qu'on s'habitue à ne plus en être non plus seulement le centre, mais les maîtres. Parce que c'est ça, la longue durée historique. Pour les Européens, nous l'avons appris après la Deuxième Guerre mondiale, à force de nous faire la guerre, nous nous sommes affaiblis à un point tel que notre sécurité dépendait désormais de deux puissances extra-européennes, Russie, États-Unis. Mais c'est encore plus vrai maintenant que les pays émergents ont émergé, etc. Donc ça crée en effet une anxiété politique, géopolitique, sur laquelle se greffe la dimension démographique, puisque nous rétrécissons, nous nous affaissons, et nous sommes 6% du monde, nous les Européens, alors qu'au début du XXe siècle, nous étions 25% du monde, quasiment. 20%. Et donc, oui, en effet, il y a une dimension proprement politique, identitaire de cette insécurité, indépendamment du fait que nous sommes aussi en insécurité, parce que Vladimir Poutine est hostile, parce qu'il y a du terrorisme islamiste, parce qu'il y a du chaos en Irak, en Syrie, en Libye, et partout autour de nous, dans un contexte où l'oncle Trump, l'oncle Sam, n'est plus si fiable. Donc, en Europe, je dirais que ça s'ajoute à ce climat général d'anxiété géopolitique.
On va prendre le temps de saluer Aude Lancelin. Bonsoir Aude.
Bonsoir, excusez-moi. C'est le problème de travailler dans la banlieue rouge.
Voilà. À l'est de Paris, il faut traverser toute la capitale pour venir jusqu'à la maison de la radio. Bienvenue en tout cas dans le club des idées du Grain à Moudre. L'émission, j'en rappelle la question, hein, Trump fait-il craquer les démocraties européennes? On vient de parler de la manière dont les populismes ou de certains populismes se sont installés aux États-Unis, en Europe aussi, avec ce sentiment d'anxiété que vient d'aborder Yves Bertoncini, d'insécurité à la fois politique et culturelle. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez?
Oui, absolument. Je crois que, si je me réfère au titre de cette émission, c'est vrai que Trump aggrave d'une certaine façon par sa présidence la situation européenne. C'est vrai qu'il constitue une force d'appui pour toutes sortes de populismes européens. Je pense notamment à la situation italienne, puisqu'il a, il a félicité Salvini, notamment le fameux ministre de l'Intérieur italien, issu de la Ligue du Nord. Maintenant, ce que je crois important de dire, c'est que la crise européenne, elle précède évidemment de très loin le problème Trump. Disons que la poussée populiste, la poussée xénophobe qu'on observe dans certains pays européens, elle a été nourrie, elle a été instillée par une poussée antidémocratique antérieure à l'élection de Donald Trump. Je pense notamment au traité constitutionnel européen, bien sûr, en 2005, dont là où on a vu que le vote des Français, le vote des citoyens n'avait pas été respecté.
Mais est-ce que l'élection de Donald Trump a renforcé cette tendance que vous décrivez, selon vous ?
Je pense que Donald Trump, comme d'autres dirigeants européens, comme on en voit notamment en Italie, j'en parlais à l'instant, est un symptôme plus qu'une cause. S'il a été élu à la présidence des États-Unis, c'est à cause de la décadence de toute la caste de Clinton et de ce que cette caste incarnait comme complicité avec les élites financières pour un peuple américain quand même qui va mal. Un peuple américain où l'espérance de vie a diminué. C'est absolument incroyable sous l'effet du néolibéralisme qui l'eut cru il y a encore une quinzaine d'années. Donc je ne pense pas que Trump, aussi monstrueux soit-il par ses sorties, aussi éruptif soit-il, aussi caricatural soit-il, soit l'origine de la catastrophe, si vous voulez.
Anastasia Colosimo.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord, et en même temps, vous savez, je pense qu'il y a eu un moment de rupture. Il y a eu un moment de rupture très fort. Le premier moment de rupture très fort, ça a évidemment été le Brexit, puisque ça a été le moment où on s'est dit, mais en fait, et je pense que beaucoup de personnes en Europe qui font partie de ces mouvements, comme vous dites, populistes, se sont dit, mais ça n'est pas inéluctable. En fait, on peut nous entendre, on peut avoir une voix. Donc je pense que le Brexit a joué ce rôle-là en Europe.
On peut reprendre le contrôle.
Et Donald Trump aussi, il faut que ça puisse paraître, mais il incarnait cette colère-là en tout cas. Son élection a montré qu'effectivement c'était possible, qu'on pouvait retourner un peu, voyez, le jeu d'échecs, que les élites pouvaient elles-mêmes se retrouver en situation, pour le coup, d'échecs. Donc ça a joué, néanmoins, je pense, assez puissamment dans l'inconscient ou même dans le conscient collectif.
Avant d'évoquer l'action d'Américains en Europe, et je pense là clairement à Steve Bannon que j'ai évoqué tout à l'heure, je voudrais qu'on parle d'influence. Est-ce que le populisme à la Trump, est-ce que la politique de Trump a influencé, voire inspiré certains mouvements qu'on pourrait décrire comme populistes? Et je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce terme, Anastasia. Mouvement populiste européen, Yves Bertoncini.
Je pense que leur maître à tous, c'est quand même Silvio Berlusconi. Hein, quand il est arrivé en Italie, dans un contexte d'affaissement du système politique italien lié à la corruption, et qu'il a importé dans nos démocraties une forme d'éloquence, on va dire, et de négligence et de style qui a essaimé depuis lors. Trump l'a fait de son côté aux États-Unis. La différence avec le moment où Silvio Berlusconi est entré en action, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans... Vous savez, comme des grands médias, dans un univers où les réseaux sociaux sont beaucoup plus présents, le système informationnel en général est tout à fait transformé, avec une porosité, je dirais, une perméabilité à ce type de style politique, de diatribe, qui finit par contaminer même les partis dits de gouvernement, à un degré moins. Donc Donald Trump, oui, là je suis d'accord avec Vincent, pour ça, il n'est jamais qu'un symptôme de plus de cette dérive qui a commencé bien avant lui. Mais c'est vrai que lui, avec ses tweets matinaux incessants, la porte à un niveau d'indignité parfois assez extrême.
Et cette dérive que vous soulignez, Yves Bertoncini, eh bien, les Américains, en tout cas certains Américains, essayent de la faire fructifier en quelque sorte, pour, en tout cas dans leur sens, comme Steve Bannon, qui veut lui fédérer différents mouvements populistes en Europe, et ce en vue des prochaines élections européennes. En tout cas, c'est la prochaine élection, prochain rendez-vous électoral, sans savoir très bien d'ailleurs qui finance cette incursion en Europe. Est-ce que c'est là un objectif réaliste au-delà?
Oui, disons que maintenant, Steve Bannon est quand même un électron libre. Hein. Même Trump n'a pas pu le garder à Washington. Mais disons,
il continue de faire campagne pour les républicains.
Oui, c'est vrai. Enfin, il n'est plus au cœur de l'appareil d'État. Trump, vous avez raison. Mais disons que ce qui est paradoxal, en effet, c'est que avec le système Trump et ses satellites, même si certains ont repris, se sont émancipés, c'est que à la fois on est incontestablement dans la ploutocratie, dans le règne de l'argent, la réforme fiscale extrêmement favorable aux plus riches qui a eu lieu aux États-Unis le prouve, et en même temps on est aussi par certains choix politiques dans une perturbation de l'oligarchie mondiale. Je m'explique. Il est certain que quelqu'un comme Steve Bannon a théorisé la mise en crise de l'Union européenne, qu'il l'a appelé de ses voeux, qu'il est certainement l'un des inspirateurs de la décision de Trump de défier Angela Merkel. Mmh.
Sans vouloir la détruire, dit-il, hein, d'ailleurs. Il ne veut pas détruire l'Union européenne, il veut la transformer.
Oui, mais enfin, bon, voilà, les États-Unis, qui étaient notre grand allié, sont dans une situation pour le moins ambiguë à notre égard désormais. Surtout, il a noué ce lien, ce nouvel axe Washington-Moscou, qui inquiète énormément toutes sortes de puissances, dont je ne pense pas qu'il le conduira à la destitution. Et qui, pour le coup, rebat incontestablement les cartes au niveau mondial.
C'est un objectif réaliste, celui de Steve Bannon en Europe, Anastasia Colosimo, cette fédération de mouvements populistes.
Elle existe, cette fédération. On sait les liens qu'il peut y avoir aujourd'hui. Enfin, on a tous vu les images de Marion Maréchal, par exemple, qui se rendait au congrès des Républicains aux États-Unis. Ouais. On sait que tous ces gens parlent. On a tous vu aussi les images de Steve Bannon avec Salvini. Donc, évidemment... Ensuite, je ne sais pas à quel point... ça dépend quel est l'objectif. C'est-à-dire que si c'est un objectif de déstabilisation, je pense que l'Europe elle-même, en tout cas l'Union européenne telle qu'elle existe, a plus favorisé la déstabilisation que Steve Bannon ne pourra jamais le faire, si vous voulez mon avis. Bon. Ensuite, si l'objectif c'est de porter... au pouvoir tous ces partis, je pense que quand même il y a une très forte résilience dans beaucoup de pays, et même si des partis encore une fois jugés populistes peuvent être amenés à faire partie de coalitions, etc., je vois mal une espèce de déferlante absolue de laquelle on ne se sortirait jamais.
Hubert Tonsigny.
Je crois qu'en effet, la victoire institutionnelle de partis extrémistes, moi je préfère dire extrémistes, extrême droite notamment, est très difficile. Très difficile parce que les peuples ont de la mémoire. Parce que si on parle de l'Europe...
Pas en Italie en tout cas.
Les peuples européens... Oui, mais regardez, le peuple italien est eurosceptique, bien sûr, mais il n'est pas europhobe. Il y a un peuple europhobe, c'est le Britannique, ils ont voté, pas de beaucoup, mais c'est démocratique, on donne suite à leur volonté de partir, pour le Brexit. D'ailleurs, en guise de take-back control, c'est moyen, hein, parce qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Mais enfin, j'espère qu'ils vont y aller. Ils ont décidé d'y aller. Les autres peuples, et les Italiens y compris, sont très eurosceptiques. Mais ils ne sont pas europhobes. Ils ne veulent pas détruire la maison. Faites un sondage en Italie sur... revenons à la lire, notamment, hein, les pays qui sont dans l'union monétaire. Ils n'ont pas envie d'en sortir. Donc c'est quand même la limite, de même que la construction européenne qui existe désormais nous force à régler nos différends pacifiquement. Voilà, on n'est plus dans le... Les années 30, je pense que si on est dans une entre-deux-guerres, moi je crois qu'on est entre deux guerres froides. Voilà, la guerre froide s'est terminée et on voit en renaître une autre. Et celle qu'on voit renaître, elle est faite du jeu des puissances extérieures et du fait qu'ils utilisent l'agit-prop, la propagande, comme au bon vieux temps de la guerre froide. Ça, c'est valable pour la Russie, bien sûr, la Chine, mais aussi les États-Unis. Alors c'est en cela que Steve Bannon intervient avec ses moyens informels. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la diplomatie américaine elle-même a un jeu parfois assez trouble. Hein, même certains ambassadeurs américains disent que peut-être qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues aux Européens. Moi, je crois, pour ce qui est des partis politiques dans avec leur spécificité nationale, bien sûr qu'il y a des passerelles, il y a des discussions. Au Parlement européen, ils siègent. Mais vous voyez, ils siègent dans 3 ou 4 groupes différents. 3 ou 4 groupes différents. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de faire l'international des nationalistes. Et je vais prendre un seul exemple, le dossier migratoire. Peut-être bien que M. Orban va voir M. Salvini, ils ne sont pas dans le même groupe au Parlement européen, et ils se rapprochent. Bien sûr qu'ils sont d'accord, je pense, sur l'idée qu'il ne faudrait pas qu'un seul réfugié pose le pied en Europe, et même peut-être pas de migrants du tout. Sauf qu'à partir du moment où des réfugiés arrivent en Italie, et il y en arrive, il faut les répartir. Les Italiens demandent de la solidarité. Monsieur Orban n'a pas du tout l'intention d'accueillir un seul demandeur d'asile venant d'Italie. Il n'y a pas qu'à nous que Monsieur Salvini demande d'accueillir quelques demandeurs d'asile. Et donc ce sont les limites coopératives, je dirais, de partis nationalistes qui défendent avant tout leur intérêt national, et on le verra. Bien sûr qu'ils vont progresser peut-être dans les urnes de ci, de là. Mais ils ne siégeront de toute façon pas tous dans le même groupe au Parlement européen, parce que, dernier exemple, il y aura des partis qui reprocheront aux autres d'être antisémites alors qu'eux ne le sont pas. Vous voyez, ils ont tous leur raison de ne pas vouloir être ensemble.
Il y a quand même des différences entre Absolument. Les différents mouvements nationalistes ou populistes Absolument. En Europe. Anastasia Colosimo et Aude Lancelin après.
Oui, je voulais juste réagir sur... vous savez, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu une sorte... de vision complotiste, de ces populistes, donc de ce Steve Bannon qui vient pour déstabiliser l'Europe, de ces populistes qui ne font que de la propagande. Enfin,
je sais pas si c'est tout du complot,
cela...
mais il y a une...
Non, mais si tout cela marche, réel, ouais. si tout cela marche, c'est parce que aussi il y a une rencontre avec le peuple, il y a une rencontre avec certaines aspirations du peuple. Donc, au lieu un peu d'essayer de comprendre quelles sont les mécaniques et quels sont les sales types derrière qui fomentent et ourdissent, etc. Peut-être que c'est l'occasion totale, peut-être que c'est justement aujourd'hui qu'on peut enfin essayer de rencontrer l'histoire et de se rendre compte que les questions soulevées sont de véritables questions par lesquelles on ne peut pas juste répondre en disant c'est de la xénophobie, c'est de la non-volonté d'appartenir, c'est une méconnaissance de l'économie mondiale, etc. etc., etc. Par exemple, dans le cas du Brexit, c'est extrêmement éloquent, puisque, alors encore une fois, je suis d'accord, le vote du Brexit, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, néanmoins, il a eu lieu, les Anglais ont voté le Brexit, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a ces mêmes élites qui disent « mais le peuple ne se rend pas compte, économiquement, ça va être une catastrophe ». Vous voyez, en fait, on retombe exactement dans le même problème. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas ça leur premier problème, en fait, ou peut-être qu'ils n'en peuvent plus d'entendre ça parce qu'ils ne comprennent même pas de quoi. Donc, vous voyez, il faudrait peut-être aussi essayer de rentrer dans un véritable dialogue au lieu d'être dans cette vision d'une fracture irrécupérable.
Pour essayer de reformuler ce que vous venez de dire, Anastasia Colosimo, ou aller un peu ailleurs et m'adresser à vous, Aude Lancelin, est-ce que finalement, on parle de l'influence donc des États-Unis en Europe, mais est-ce que finalement les premiers responsables de la situation en Europe, ce ne sont pas les gouvernements et les dirigeants qui sont aux manettes depuis des décennies maintenant ?
Oui, absolument. Je lisais en fin d'été, par exemple, une grande tribune publiée par Pierre Moscovici qui tirait les leçons de la crise grecque dans les colonnes de l'Obs, en l'occurrence, et qui se félicitait du fait que l'Union européenne ait sauvé la Grèce, et en lui prêtant 488 milliards d'euros. Déclencher toutes sortes de bienfaits sur le terrain. Quand on connaît un petit peu la situation sur le terrain, où on observe un exode massif de la jeunesse grecque, où les services publics et la santé sont détruits, où maintenant Alexis Tsipras en est rendu à faire charger des retraités par des policiers anti-émeutes, on se dit en effet que ce qui se passe aujourd'hui partout en Europe et le fait de ces dirigeants, notamment de ces dirigeants sociaux-démocrates, de ces dirigeants qui ont construit dans les 15 dernières années l'Union européenne sur des bases tout autres que celles des intérêts du peuple. Et si effectivement aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on observe une croissance très inquiétante des partis de la droite dure, souverainiste, eurosceptique, xénophobe, les premiers coupables ne sont pas les Américains, mais bien nos élites européennes.
Hubert Consigny.
Oui, avec deux remarques s'agissant de la Grèce. Ce qui a été sanctionné quand même en Grèce, ce sont les vieilles élites grecque d'abord. Et c'est pour ça qu'Alexis Tsipras a gagné les élections, parce qu'il y a eu en Grèce, de la part des deux partis de gouvernement...
Oui, le PASOK notamment.
Oui, le PASOK qui a sombré corps et biens, une gestion calamiteuse de ce pays, et qui a vécu à partir du passage à l'euro encore plus au-dessus de ses moyens, avec des marchés financiers qui ont prêté à la Grèce comme si c'était l'Allemagne, et puis qui d'un seul coup se sont rendus compte que c'était peut-être pas pareil. Alors bah oui, d'un seul coup la Grèce a été étranglée, c'était pas le seul pays. Les élites irlandaises ont failli aussi dans la façon dont elles ont géré le système bancaire et immobilier irlandais. Et donc n'oublions pas que quand même ce sont des élites nationales qui ont failli dans plusieurs pays. Et c'est vrai qu'en France, ce qui a facilité la montée du Front National, c'est aussi que nos élites, notamment sur la question du chômage, piétinent depuis quand même des décennies. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand même, je reviens sur mon idée d'international des nationalistes. La crise grecque, prenons cet exemple, a suscité de l'euroscepticisme et même parfois de la rage europhobe dans plusieurs pays, mais de manière symétrique. C'est-à-dire qu'il y a des partis en Grèce ou dans les pays qui ont subi des cures d'austérité très très lourdes, qui sont devenus anti-européens, violemment anti-européens, anti-FMI, et c'est bien leur droit. Mais n'oublions pas que de l'autre côté de la barrière, dans des pays qui devaient prêter de l'argent, exemple l'Allemagne, Alternative für Deutschland, lui a émergé, ce parti d'extrême droite-là, sur le refus de toute solidarité avec la Grèce. Et puis ensuite, le deuxième étage de la fusée, ça a été sur le refus de toute solidarité migratoire. Avec qui ? Avec la Grèce encore, et avec l'Italie. Et donc c'est pour ça qu'il faut regarder le paysage de manière complexe, de manière totale, et bien mesurer que parfois la montée de ces mouvements extrémistes, en réalité... puis à des sources totalement contradictoires, ce qui fera obstacle, bien sûr, à leur réunion et à leur coopération par la suite.
Au delà de cela.
Oui, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, bien sûr, à savoir que, effectivement, la faillite du PASOK, du Parti Socialiste Grec, est incontestable, personne ne la nie, mais M. Tsipras a été tout de même élu sur un programme de gauche radicale, élu sur de fausses promesses, qu'il s'est empressé de trahir, même après avoir gagné à plus de 60% un référendum au cours de l'été 2015. Par ailleurs, je crois foncièrement que la montée en Allemagne, notamment d'un parti néo-nazi, est due à la crise migratoire provoquée par la politique, pour le moins, à mes yeux, irresponsable d'Angela Merkel, beaucoup plus que par l'été 2015 grec. Je pense que ce n'est pas l'enjeu véritablement de ce qui est en train de menacer la politique allemande. Par ailleurs, qu'est-ce qui a mis à genoux la Grèce aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a détruit même la Grèce probablement pour des dizaines d'années ? Ce sont les institutions européennes, c'est la Troïka, ce sont les demandes financières totalement délirantes, impossibles à remplir, auxquelles les Grecs ont été soumis, qui montrent une politique européenne à courte vue, réveillant en l'occurrence les ferments de la haine dans un pays qui a connu il n'y a pas si longtemps une dictature des colonels.
Des causes différentes, mais une réalité en tout cas, donc cette montée des nationalistes et des populistes aujourd'hui en Europe. Comment réagir face à ça, Anastasia Colosimo ? On parlait tout à l'heure de la position d'Emmanuel Macron qui agite un chiffon rouge. Hein. Ça y est, c'est le retour des années 30. Est-ce que c'est une ligne qui est pertinente ? Est-ce que c'est une ligne qui est tenable ? Cette manière de dire, en quelque sorte, c'est soit le fascisme, soit la défense du progressisme. Est-ce que ça peut fonctionner ?
Déjà, je pense que sur le fond, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que c'est être mauvais historien que de comparer ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait dans les années 30. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est en plus une stratégie extrêmement mauvaise. C'est une stratégie extrêmement mauvaise puisque justement tout le grief, c'est que les élites ne veulent pas entendre parler du peuple et ne veulent pas écouter le peuple. Donc à partir du moment où vous discréditez tout discours qui peut être jugé extrémiste, ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous le discréditez et vous dites justement, vous agitez le chiffon rouge en disant c'est abominable, c'est atroce, vous ne faites que renforcer en fait les rangs de ces opinions-là, justement parce qu'on a l'impression que on ne veut rien entendre, on peut juste juger, on rentre dans une espèce, voyez, bah c'est vraiment ça, c'est comme toujours, le camp du bien contre le camp du mal. Vous n'allez quand même pas appartenir au camp du mal. Vous êtes des malades. Donc ne vous inquiétez pas, et en fait c'est ce que les élites ont fait depuis des décennies maintenant. Prenez-nous la main. Le monde qui nous attend est le monde mondialisé, globalisé, magnifique. Vous allez tous y trouver votre place. Ne vous inquiétez pas. Vous allez tous avoir un CDI, vous allez parler anglais. Mais d'ailleurs, il n'y a... enfin bon, bref, tout ça, ça ne fonctionne plus. Et faire peur aussi, ça ne fonctionne plus. Et le plus étonnant, c'est qu'on en soit aujourd'hui là où on en est et que des personnes pensent encore que ça marche d'agiter le chiffon rouge.
Yves Bertoncini.
Je crois que Emmanuel Macron
ça fait réagir dans le public. Il y a quelques applaudissements après ce que vient de dire Anastasia
Colasinac. Et peut-être trop au sérieux, effectivement, les propos tenus par Matteo Salvini, Viktor Orban, etc., qui ne gagneront pas les élections européennes. Je vous donne le scoop là. Ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas parce que numériquement, ils progresseront peut-être, etc. D'abord, ils étaient déjà assez hauts en 2014 dans certains de ces partis-là. Donc, ils ne vont pas faire 50% des voix. Ils n'arriveront pas en tête.
Ce que vise apparemment Steve Bannon, c'est un tiers des sièges au Parlement européen.
On verra.
Si tout le monde arrive à se mettre d'accord,
bien.
Évidemment.
Mais bon, je suis assez d'accord pour dire, cela étant, qu'au-delà des enjeux électoraux, il vaut mieux faire de la géographie que de l'histoire, y compris quand on est président de la République. Et donc, la géographie, c'est regarder le monde, faire de la géopolitique, dire que ce monde, voilà, est dangereux. Et là, on est en phase avec ce que nous pensons, nous, les Français, les Européens. On est inquiets, nous tous. Et je pense que les élites peuvent être inquiètes aussi sur certains sujets, notamment les sujets de sécurité, les attentats terroristes, etc. Et donc, tenir un discours de vérité, tenir un discours de vérité aussi sur les enjeux migratoires, hein, parce que tout se passe là comme si la crise des réfugiés était toujours vivace, alors qu'elle a été jugulée, la crise des réfugiés. Il y a eu un pic 2015-2016, notamment parce qu'Angela Merkel a ouvert les bras. Mmh. Depuis, c'est jugulé. Et donc, il ne faut pas faire non plus comme si... Et ça, c'est l'extrême droite qui se complaît à le faire.
Enfin, c'est Gérard Collomb, pardon. Je ne sais pas si Gérard Collomb d'extrême droite...
Ne pas faire comme si cette crise était toujours vivace parce qu'elle a été jugulée, y compris en utilisant des moyens pas très honorables, mais en tout cas les accords avec la Turquie, etc., etc. Donc, il faut que les dirigeants parlent du monde en empathie avec les craintes que suscite l'évolution de ce monde. Et puis évidemment, pour ce qui est de l'Europe, eh ben, qu'il y ait davantage d'union, parce que pardon, l'union peut faire la force, surtout quand notre protecteur traditionnel n'est plus fiable et même est répulsif. Voilà.
En l'occurrence, les États-Unis. Donc, Aude Lancelin.
Non, pour finir, moi, je dirais effectivement, dans le sillage de ce qu'a dit Anastasia, qu'on ne peut pas prétendre, comme Macron, fédéré par la peur. On ne peut pas reproduire à l'échelle européenne en agitant le spectre d'un Salvini ce qu'on reproduit maintenant à chaque second tour d'une élection présidentielle en France, c'est-à-dire le candidat du capital se fait élire contre le méchant fasciste, quel qu'il soit. Ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Moi, je dirais pour conclure qu'il faut la solution, ça prendra énormément de temps, c'est de prendre le mot démocratie au sérieux, de lui redonner du contenu, de lui redonner du sens. La démocratie, ce n'est pas simplement se rendre tous les 5 ans dans un isoloir, c'est tout à fait autre chose.
Il nous reste une minute, Anastasia Colosimo.
Oui, il y a quelque chose de très fallacieux, vous savez, chez ces élites, c'est qu'elles pensent qu'elles ne sont pas dans l'idéologie et qu'elles sont juste dans le sens commun. Eh bien, ça serait ça qu'il faudrait détruire et se reposer la vraie question du bon sens et se reposer aussi la vraie question de la démocratie. Je suis tout à fait d'accord. Si nous sommes démocrates, dans ce cas-là, nous ne devons pas nous passer du peuple.
Quelques secondes encore pour parler du risque de violence. On parle là de peur, etc. Il y a quand même des violences aujourd'hui en Europe. Je pense à l'Allemagne, par exemple, qui a connu ces années-là. Est-ce que c'est un risque de voir ces violences augmenter dans les semaines, dans les mois qui viennent avec cette vague populiste, Yves Bertoncini?
Il y a une responsabilité de ceux qui occupent les positions de pouvoir, ou en tout cas les partis, dans la façon dont ils s'expriment. Parce que il y a une sorte de surmoi, le système politique tel qu'il est, et même les élites, prononçons ce mot, peuvent quand même, en se comportant correctement, incarner une forme de respect des règles. Et quand ce n'est plus le cas, et encore une fois, Donald Trump est l'exemple typique de cela, on voit bien comment aux États-Unis ça peut donner une forme d'autorisation implicite à des personnes plus fragiles, plus faibles ou plus extrémistes pour le passage à l'acte. Donc oui, plus la violence politique se développera, plus la violence physique, malheureusement, pourra survenir.
C'est la fin de cette émission, c'est la fin du Club des idées du grain à moudre. Merci à tous les trois. Anastasia Colosimo, politiste, enseignante à Sciences Po. Aude Lancelin, directrice du Média. Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France. Un grand merci à la formidable équipe du grain à moudre. Antoine Dulster, Antoine Tricot, Fanny Richer, Camille Ferré et Guillaume Laguigné. Réalisation ce soir, Annabelle Brouard, prise de son, Pierre Monteil, Lucas Derode et Valentin Azan-Zilinski. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou bien sur franceculture.fr à la page du grain à moudre.